Mon témoignage sera de dire que avec Dieu, il n'y a aucune cause de perdu. Parce que rien n'est difficile pour lui. Parce qu'il a tout accompli. J'étais mort spirituellement. Et j'étais encore plus mort physiquement. Et sans la grâce de Dieu, ce matin, je ne serais pas là. En fait, pour ne pas être trop long, j'irai à l'essentiel de ce qui aurait pu être, ou de ce qui aurait dû être, un véritable désastre. Mais avant toute chose, j'aimerais partager avec vous ce verset qui est dans les psaumes 139 et au verset 16, qui dit la chose suivante. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Dieu est en contrôle de nos vies, quelles qu'elles soient. Et donc, ma naissance fut une catastrophe. Je suis né d'un père inconnu et d'une mère qui m'a abandonné durant 3 ans. Au bout de 3 ans, elle m'a repris. Elle m'a repris parce qu'elle allait se marier. Cet homme n'était pas mon père. Il ne m'a jamais considéré comme son fils. Pire encore, il ne m'a jamais accepté. Mon enfance donc fut très difficile. J'ai vécu sans affection parentale. Mon éducation scolaire a été plus que médiocre. Le pire, c'est quand mon demi-frère est né. Alors là, ça a été une catastrophe. Une véritable catastrophe. Il n'était pas anormal que d'entendre de temps en temps cet homme, mon père, me dire « Pour qui tu te prends ? Tu n'es rien du tout. Tu seras un clochard. Tu finiras dans la rue. » En fait, je n'étais pas le bienvenu dans cette maison. Je n'avais qu'un désir. C'était fuir. C'était partir. Je voulais de la liberté. Je ne comprenais pas le pourquoi. Mon adolescence, elle ne fut pas mieux. Après ma scolarité, ma mère m'a dit « Maintenant, tu vas travailler. » Et elle m'a trouvé un pré-apprentissage. J'avais 15 ans et demi, elle m'a trouvé un pré-apprentissage. Charcutier, cuisinier charcutier. C'était bien, j'étais content finalement parce que ça me permettait de partir de la maison. 5h30 du matin, hop, j'étais dehors et j'avais un petit kilomètre à faire, mais j'étais content, j'étais loin de la maison, loin de ce foyer où on ne me voulait pas. Mais voilà, au bout de quelque temps, j'ai eu un eczéma sur les mains. Mes doigts ont doublé de volume. C'était un eczéma purulent qui s'est prolongé tout le long de mes bras, qui est venu jusque sur mon cuir chevelu. Mon cuir chevelu n'était plus qu'une croûte purulente. J'étais devenu infectieux dans cette maison. Ne pas le toucher. Il est contagieux. Laissons-le de côté. Ma mère m'a amené à l'hôpital pour voir des dermatologues, des spécialistes. Ils n'ont jamais rien trouvé après les examens. « Madame, on ne peut rien faire pour votre enfant. » Moi, je lui ai dit au médecin, « Mais alors, qu'est-ce que je vais faire plus tard dans la vie ?» Il m'a répondu, « T'auras qu'à faire ministre. » C'était sympathique. De là, ma mère m'a amené dans un établissement pour savoir quel genre de métier je pourrais faire. C'était un établissement psychotechnique pour voir de quoi j'étais capable de faire comme un métier. Moi, j'aurais bien aimé être électricien. Mais voilà, la personne, elle m'a dit, « Ben non, tu ne peux pas être électricien parce que tu es daltonien. » Bon, je confondais les couleurs. Bon, tant pis. Eh bien, je ferais bien donc mécanique générale, je lui ai dit. Il me dit, « Oui, mais c'est à Limoges. Et toi, tu habites à Bordeaux. » Je lui ai dit, « C'est pas grave. Limoges, ça me va très bien. » Ça me permettait de partir de la maison. Et me voilà donc en train de faire les valises, prêt à partir pour Limoges. Avant de partir, mon père a bien pris la précaution de me dire « C'est mieux ainsi, c'est mieux que tu partes. » Voilà, va-t'en. Je suis parti, j'ai fait cette formation. J'étais pas très doué, vraiment. C'était pas ce que j'aurais voulu faire. Mais je l'ai fait quand même. J'ai fini finalement par avoir mon diplôme. C'était bien. Le problème, c'est que la maladie, elle était toujours là. Et dans la mécanique générale, on touche des huiles, on touche des graisses, on touche toutes sortes de choses. Et donc, voilà, je ne pouvais pas vraiment faire ce métier. Donc, il a fallu que je fasse de l'intérim. Je travaillais pour des sociétés intérimaires de ci, de là, pendant que la maladie me laissait tranquille. Et puis quand la maladie revenait, eh ben, j'arrêtais de travailler. J'attendais que ça passe. Mais même des manger tellement, mes doigts n'avaient plus de volume, que je les passais sous l'eau bouillante pour me les ébouillanter, c'était la seule chose qui me calmait. Et puis, le temps a passé. Ma vie, mon adolescence, ma jeunesse, c'était simplement que du vagabondage. De ci, de là. Voilà, j'étais un vagabond. J'étais devenu un vagabond. Puis à 21 ans, je me suis marié. J'ai rencontré une personne qui était dans une maison maternelle, un endroit où les jeunes filles vont pour accoucher lorsqu'elles ne savent pas trop où aller et qu'elles sont parties de chez elles. Je me suis pris de passion pour cette personne. Mais malgré cet amour que j'avais, cette passion, il y avait quelque chose en moi de plus terrible. Il y avait quelque chose en moi, dans mon âme, qui n'allait pas. J'étais en proie de désarroi, de détresse. J'étais dans le vide complet. Et alors que je marchais dans la rue, mes yeux se sont ouverts sur un bâtiment, c'était une église. Ces deux grandes portes étaient ouvertes. Ça m'a interpellé. Je me suis rappelé le catéchisme. Là, j'ai vu cette petite lumière rouge. Oh, ça m'a rappelé qu'il y avait un Dieu par-ci, par-là, qui peut-être pensait à nous. Alors, je suis revenu à la maison. J'ai fermé la porte de ma chambre. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Et là, j'ai crié à Dieu dans ma détresse. Et je lui ai dit, si tu existes réellement, alors révèle-toi à moi. Les jours ont passé, les semaines aussi. Moi, j'avais oublié. Mais Dieu, lui, n'avait pas oublié. C'est le cas de dire, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et quelque temps après, j'ai appris que ma grand-mère s'était convertie. Elle était très croyante, elle s'était convertie, elle avait accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et elle voulut me parler de Jésus. Oh, je lui ai dit, écoute, fiche-moi la paix avec ça. Et c'est bon, là. Non. Et puis je commençais à la repousser, à la repousser, à la repousser. Alors, on ne s'est pas énervé, elle m'a remis un livre. Elle m'a dit, tiens, quand tu auras le temps, tu n'auras qu'à lire ce livre. Effectivement, j'avais le temps. Le samedi, j'ai ouvert le livre et je l'ai lu. Ce livre parlait du gang le plus meurtrier des États de New York. C'était l'histoire de Nicky Cruz. La croix et le poignard. Ça m'a touché. Et j'ai dit, mais alors, si Dieu peut toucher des gens comme ça, il venait de se convertir, il peut faire quelque chose peut-être pour moi. Donc, le dimanche, je suis allé à l'église évangélique. Et quand je suis arrivé à l'église évangélique, le culte avait commencé. Je suis arrivé là, et il y a quelque chose qui m'a traversé. De la tête aux pieds, ça m'a traversé, et j'ai eu le sentiment. Je suis arrivé à la maison. Je suis arrivé à la maison. Il y a quelque chose. Et de là, j'ai suivi toutes les réunions de prière, les réunions de tout. J'avais soif. Je dévorais la parole de Dieu. 3 mois après, je demandais d'être baptisé dans le nom de Jésus. Auparavant, 2 jours avant, on avait une réunion de prière. Et là, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Il m'a foudroyé. Je suis tombé de ma chaise. Je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Avant même d'être baptisé d'eau, le Seigneur me remplissait du Saint-Esprit. C'était merveilleux. Je voulais donner ma vie à Jésus. Je voulais le servir. Quelque temps après, je me suis aperçu que la maladie que j'avais, l'eczéma, il avait disparu. Il n'était plus là. Je n'avais plus rien à mes mains. C'était extraordinaire. Pour moi, c'était le début d'une nouvelle aventure. C'était quelque chose de merveilleux. Oui, c'était quelque chose de merveilleux. Mais le plus tragique allait arriver. Le plus tragique allait arriver. Cette femme ne participe pas aux mêmes ambitions que moi et n'a jamais accepté Jésus-Christ. Elle m'a dit, tu m'embêtes avec ton Dieu, il n'y en a que pour ton Dieu maintenant. J'ai accepté. On a prié, j'espérais. 1 an, 2 ans, rien n'est arrivé. Et puis petit à petit, ça vient insidieusement. Eh bien, on commence à se refroidir. On commence à faire des pas en arrière. On néglige la parole de Dieu. Ce n'est pas avec plaisir. Mais voilà, ma passion était telle pour cette personne. Et puis j'avais des enfants. Je ne concevais pas d'être différent. Je ne concevais pas. 20 ans se sont écoulés. 20 ans se sont écoulés comme ça. Je savais que mon couple était chaotique, que rien n'allait vraiment bien. Mais j'espérais tout le temps. Dans mon cœur, il y avait quelque chose quand même. Il y avait des petites braises qui brûlaient. Et je me dis, peut-être que Dieu fera quelque chose. Mais rien ne s'est passé. Et puis un soir, la tempête est arrivée. Elle a ouvert la porte. Elle m'a dit, maintenant tu fiches le camp. Je ne veux plus entendre parler de toi. Tu t'en vas. Et elle m'a mis à la rue. Elle m'a mis à la rue. Comme ça. Je dis, c'est un coup de folie. Elle va revenir sur ses paroles. Non, ce n'était pas un coup de folie. C'était vraiment délibéré. À ce moment-là, c'était une catastrophe. Si je n'ai pas perdu la raison, c'était une grâce de Dieu. Quelque temps après, j'étais toujours dans la rue, donc, comme un SDF, comme un vagabond. Elle me dit, je vais divorcer. Elle me dit, je lui ai dit, mais si tu veux divorcer, c'est ton problème. Moi, je ne veux pas divorcer. Il ne sera jamais dit devant mes enfants que c'est moi qui ai voulu cette séparation. On a été devant le juge. Le juge lui a dit, madame, pourquoi vous voulez divorcer? Il vous bat? Non. Il boit? Non. Il ne travaille pas? Non. Mais alors pourquoi vous n'en voulez plus? Parce que je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Mais cette raison n'est pas suffisante, madame. Vous n'aurez que la séparation de corps et de bien. Elle a eu la séparation de corps et de bien. Lorsque nous sommes descendus du tribunal, j'ai vu le diable en personne me dire, de toute façon, je l'aurai, mon divorce. Coûte que coûte, je ferai n'importe quoi, mais je l'aurai, mon divorce. À n'importe quel prix. Effectivement, elle l'a eu, à n'importe quel prix. Devant des mensonges, des allégations, tout ce que l'on veut, elle a fini par avoir son divorce. 2 ans après. Là, c'est tout qui s'effondrait. Là, je ne donnais plus cher de ma vie. Si j'avais pu, j'aurais même pu disparaître. Je n'en voulais plus, je ne voulais plus vivre. Je ne voulais plus vivre. Alors, dans mon désespoir, j'ai pris 2 tubes de cachet pour dormir. Et je les ai avalés. J'étais dans une cave là, que je ne savais pas ce que c'était. J'étais dans une cave et j'ai pris ces 2 tubes de cachet. J'ai dit, comme ça, on n'en parlera plus. Ça sera fini. Le lendemain, je me suis réveillé, les cachets n'ont eu aucun effet sur moi. Je me suis réveillé comme si j'étais sous un homme drunk. Voilà, mais les cachets n'ont eu aucun effet. Moi, j'ai dit, ça c'est la meilleure. C'est la meilleure. J'avais gardé le tube, je suis allé voir le pharmacien, je lui ai dit, c'est normal là, si on prend beaucoup de cachets, qu'il se passe quelque chose. Il me dit, monsieur, asseyez-vous, vous n'êtes pas bien. J'ai dit, si, je vais très bien, ça va. Je suis reparti, je n'ai pas insisté, parce que voilà. Entre-temps, j'ai trouvé un petit studio. Ça allait bien. Dieu néanmoins s'occupait de moi, mais je ne le savais pas. J'ai eu un terrible accident de voiture. Le choc a été si violent que le moteur est rentré dans la surface d'habitation. J'aurais dû perdre une jambe. Je n'ai pas perdu ma jambe. J'aurais dû avoir la cage thoracique complètement fracassée. Je n'ai pas eu la cage thoracique fracassée. J'ai eu simplement le nez du visage déplacé sur lequel il a fallu que je porte un masque pendant un certain temps. Mais Dieu avait préservé ma vie. Quand les gens sont venus, les secours sont venus, ils ont dit, ce gars-là, il est mort. Il est mort. On ne peut plus rien pour lui. Non, ça ne s'est pas passé. Dieu avait gardé ma vie. Dans ce petit logement que j'avais, ce petit studio, j'avais posé ma Bible sur la table. Cette Bible que je n'ouvrais plus depuis très longtemps. Je ne la lisais plus. Je suis la Bible. J'avais posé une lame de rasoir. N'importe quoi aurait pu arriver, parce que je n'en voulais plus. N'importe quoi. Mais voilà, un soir, j'étais tellement à bout, tellement au fond du puits, que je me suis agenouillé. J'ai crié à Jésus. Je lui ai demandé pardon, je lui ai vidé toute mon âme. Toute mon âme. Au bout d'un moment, quand ça s'est apaisé, j'ai entendu la voix de Jésus. Et Jésus m'a dit la chose suivante. Ne crains pas, crois seulement. J'étais entouré d'une vaste lumière, je ne comprenais plus rien, mais il y avait ce verset qui résonnait dans mon cœur. Ne crains pas, crois seulement. Alors je suis allé m'asseoir sur la table, puis j'ai ouvert ma Bible machinalement, comme ça. C'était dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 36. Le seul verset qui jaillissait de cette Bible, c'était « Ne crains pas, crois seulement ». J'ai su que là, vraiment le Seigneur était là. Pour moi, ce fut quelque chose d'extraordinaire, parce que dans tout ce parcours, Dieu avait encore eu de l'intérêt pour moi. Il y avait encore de l'amour. L'amour de Jésus. 5 années se sont passées comme ça. 5 années de détresse. C'était dans l'année 1993 qu'elle a divorcé. J'avais juste 40 ans. Et 5 années se sont écoulées jusqu'en 1998 où j'ai erré, ça et là. Malgré la parole de Jésus, ne crains pas, crois seulement. J'en pouvais plus. J'avais un fils qui vivait en Angleterre. Il m'avait dit, tu sais papa, si plus rien ne va, tu peux venir en Angleterre. Mais moi je lui ai dit, qu'est-ce que j'irai faire en Angleterre? Je ne parle même pas l'anglais. Qu'est-ce qui va? C'est inutile que j'aille en Angleterre. Mais là j'étais tellement au désarroi. Et je crois que Dieu m'a mis sur le cœur d'aller en Angleterre. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, viens vite me chercher. D'accord, je viens. Et je suis arrivé en Angleterre en 1998. Je ne savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangé. Je longeais les murs pour pas que quelqu'un m'accoste. Parce que je me dis, s'il me parle, je ne saurais pas quoi lui dire. 3 mois après avoir été en Angleterre, je trouvais du travail. Une entreprise française venait de s'installer et avait besoin de quelqu'un pour faire la liaison entre l'Angleterre et la France. 3 mois après, le Seigneur me donnait un travail. Dans le même temps, il me trouvait un logement, exactement, point par point, de ce que je voulais. Je ne voulais pas de cohabitation. Je voulais être indépendant, parce qu'en Angleterre, on fait beaucoup de cohabitation. Mais moi, je n'en voulais pas. Je voulais un appartement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dieu a pourvu exactement, dans le moindre détail, de ce que j'avais besoin. Et puis un jour, j'étais donc dans cette entreprise. C'était un hangar, comme ici. Et puis, il y a l'ami de la patronne qui avait besoin d'être accompagné à la gare pour prendre son train. On me dit, Serge, tu peux pas l'accompagner à la gare? Oh, je lui dis, si, je peux l'accompagner à la gare. Et voilà que sur le chemin du parcours, elle me dit qu'elle est chrétienne. Et puis là, elle commence à me donner son témoignage. Et puis, bon, je dis, attention, doucement, là, parce que... Il y a un peu de tout dans les chrétiens, hein, surtout chez les charismatiques, il y a à boire et à manger. J'ai dit, on va faire attention à tout ça. Et puis, je l'ai laissé. Mais avant de partir, elle m'a dit, Serge, revenez à l'église. Ces paroles, je les ai reçues comme des paroles de feu. Il n'y avait que ça dans mon cœur. Revenez à l'église, revenez à l'église. Le lendemain, c'était un samedi, j'ai dit, oui, mais revenir à l'église, oui, mais où? Moi, je suis en Angleterre, je suis français, je ne parle pas un mot de français, qu'est-ce que je fais là? Et puis j'ai levé les yeux, église évangélique. Eh bien, j'ai dit, c'est là que je vais aller. Et le dimanche, j'allais là. Parce qu'elle est arrivée. Good morning, welcome, welcome. I'm French. Oh, I'm French. Et là, le Seigneur, le Saint-Esprit est revenu sur moi. Il a renouvelé sa puissance sur moi. Il m'a renouvelé, il a réhabité en moi. C'était fort, c'était puissant. Je me remettais à réexister de nouveau dans la puissance de Christ. Je suis revenu au travail. J'étais content, je faisais mon travail. Puis un jour, il y a une personne qui est passée par la porte, comme qui dirait cette porte-là. Et le Saint-Esprit tombe sur moi et me dit, regarde cette femme, elle sera ta femme plus tard. Bon, j'ai un peu souri, mais c'est le Saint-Esprit, donc je l'écoute. J'ai rien dit. Et puis, elle venait pour un entretien d'embauche. Donc, entretien d'embauche, elle a été embauchée. Donc, comme c'était une Française, on a commencé à être camarades. Puis j'avais noté qu'elle venait à pied au travail. Donc un jour, je me suis dit, tiens, je pourrais lui proposer de la ramener à la maison. De toute façon, j'ai rien à perdre parce qu'elle dira non. Et en fait, je lui ai proposé, et elle m'a dit oui. Ah ben ça alors, elle m'a dit oui. Et là, on a commencé pendant le trajet à partager des choses et on s'est aperçu qu'on avait des goûts en commun. Et donc là, plus que camarades, on est devenus amis. Et une forte amitié s'est mise en place. Mais au bout d'un moment, elle m'a dit, tu sais Serge, ça ne peut pas aller plus loin que l'amitié. N'espère rien, n'attends rien. On ne sera que des très bons amis, mais je pense que pour un temps, il va falloir se séparer. On continuera à travailler, on se verra au travail, mais on va continuer à se séparer. Bon, ben j'ai dit d'accord. Je suis arrivé à la maison, et là j'ai dit à Dieu et nous, tu m'as dit que cette femme serait mon épouse. Et maintenant elle m'a dit, elle, qu'on devait se séparer. Alors qu'est-ce que tu m'as raconté là, je lui ai dit à Dieu. Et je parlais à Dieu comme ça, je lui ai dit, mais Seigneur, mais ça va pas, il y a un problème en quelque part. Le Saint-Esprit est revenu à moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, cette femme ne sait pas qu'elle t'aime, mais lorsqu'elle t'aimera, ça sera pour la vie. Ça sera pour la vie. Alors, j'ai accepté ce que me disait le Seigneur, le Saint-Esprit. Vous aurez compris que cette personne, c'était Muriel. Non. Et nous avons continué dans notre amitié. Et puis, pendant que je la raccompagnais en voiture, je lui ai dit, mais, et Dieu, qu'est-ce que tu penses de Dieu? Et là, j'ai commencé à lui parler. Puis je lui ai dit, tu sais, je vais à l'église. Je vais à l'église le matin, puis j'y vais l'après-midi aussi. Mais si tu veux, tu peux m'accompagner. On m'a dit, tu sais, pour moi, hein, tout a une explication. Dieu, voilà. Elle avait une parfaite éducation, elle avait tout. En fait, je vous donnerai un jour son témoignage. Mais moi, je lui dis, dans cette personne, il lui manque qu'une chose. C'est Dieu dans sa vie. Tout était parfait. Tout était rubis sur l'ongle. Il lui manquait qu'une chose, c'était Dieu. Et elle a fini par accepter. Un jour, elle est venue avec moi à l'église. Je lui ai dit, tu sais, il faut faire attention à l'église. Parce que tu vas entendre des choses. Hein, tu parlais en langue. Alors, ne t'effraie pas. Hein, voilà. Et puis, le temps est passé. Et elle a donné sa vie au Seigneur. Elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur personnel. Et puis, quelque temps après, elle a voulu se faire baptiser. Et j'ai eu l'honneur, en public, de la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelques années après, eh bien, on s'est mariés. Le Seigneur avait tenu ses promesses exactement comme ça m'avait été dit. Elle deviendra ta femme. Le jour où elle saura que le thème, ça sera pour la vie, le Saint-Esprit avait répondu à toutes choses. Avec Dieu, il n'y a aucune cause désespérée. Il est celui qui a sa vie entre nos mains. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et rien n'est trop grand pour lui, ni trop petit, parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel, d'un amour incompréhensible. Nul ne sait, mais Dieu sait. Nos jours sont entre ses mains. Mais si on a la foi, il est notre berger, il est notre abri, il est notre protecteur. Il est l'ami fidèle qui ne saurait changer parce qu'il a payé le prix. Parce qu'il a payé le prix un jour à la croix et qu'il s'est sacrifié afin que nous, nous ayons la vie. Tel est le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Que son nom soit béni. Amen.